Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le... Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour, bonjour, bienvenue à l'épisode 162 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et aujourd'hui, on attend que le jingle finisse. Aujourd'hui, donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. J'ai avec moi en studio pour l'instant, je pense qu'on attend quelqu'un encore, mais Alexandre Poirier. Bonjour. Hop, attends.
Quoi? Là, on
Allô?
M'entend.
Oui,
là, on m'entend.
J'ai oublié d'ouvrir.
Salut.
Allô, ça Allô? Va bien?
Ça va bien.
Ah. Oui. Ah, voilà, ah, notre troisième participante vient d'entrer en studio. Donc, début un peu. Attends que j'ouvre ton micro. Akiri, elle a encore son manteau sur le dos. Donc, dans cette entrée chaotique que la vie, donc, Alexandre Poirier, on a entendu Stéphanie Roussel qui arrive en ce moment. Je m'excuse.
Allô!
C'est stressant, tout ça. prends ton temps, là. et voilà, des habitués de Pop en Stock. Et j'ai aussi avec moi Zéa Beaulieu-April. Allô? Des bruits de chevaux. Parce que aujourd'hui, mais en fait, Zéa, t'es déjà venue. C'est la deuxième fois que tu viens à Pop en Stock?
C'est ma deuxième fois. J'ai été déviergée déjà.
T'as déjà été déviergée.
Ouais, donc la deuxième fois, on dit que c'est mieux, c'est moins awkward.
Ah, peut-être. Pour l'instant, ça va pas très bien, mais ça va bien. J'aide pas. Mais voilà, la dernière fois que t'es venue, c'était à l'émission de Poésie, si je me souviens bien.
Oui.
Donc, Poésie Pop. Et aujourd'hui, on change de registre, mais pas vraiment, parce qu'on va parler de la série télé de Netflix, BoJack Horseman, d'où tes bruits de chevaux. Mm. Donc, c'est mes bruits de chevaux, mais pas de salive. Et voilà, donc, en fait, je vais commencer à parler un peu de moi, parce que c'est moi qui parle, puis je dois animer.
C'est chill.
Ben, en fait, je trouvais intéressant d'aborder ce sujet-là d'entrée de jeu. Mon Dieu. Parce que j'ai connu cette émission-là, en fait, parce que un de mes amis qui était en dépression me l'avait fortement suggéré. Il m'avait dit que ça avait beaucoup aidé, justement, son état dépressif. Et il avait passé l'année à réécouter encore et encore BoJack Horseman pour, justement, essayer de plonger un petit peu plus en profondeur dans sa psyché et d'explorer toutes ces contrées-là un peu dark qui nous habitent, surtout quand on est dans une dépression. Donc, c'est des pensées qui nous habitent. Et là, je me suis dit, ah ben, je vais aller voir. Je suis pas en dépression, mais je peux essayer d'apprécier un peu cette émission-là. Et j'ai écouté le premier épisode et j'étais tellement déprimée que j'ai juste arrêté. Donc, j'ai pas continué. Ça, c'était v'là 2 ans. Et récemment, vu que je suis très sensible à la pression des pairs, à peu près tous mes amis ont commencé à écouter BoJack Horseman et je me suis dit qu'il fallait que j'embarque sur le train parce que sinon je pourrais pas partager ces références-là et tout justement Donc, toutes les références et tout. En parler avec les autres, parce que tout le monde en parle, puis moi aussi, je veux participer à la grande conversation.
C'était ça ou écouter iZombie. Fait que j'ai...
Mais c'est super bon, iZombie.
Ouais, je sais, mais après deux saisons, c'est un autre sujet. C'est pas grave. Il y a du choix sur Netflix.
C'est pas du tout le même registre.
Mais si vous faites iZombie, j'aimerais être réinvité aussi.
On va faire iZombie. Je vais me forcer pour finir la saison.
J'ai pas fini non plus. Fait que...
Moi, j'ai fini. Fait qu'on peut faire iZombie ensemble, Zéa.
Ok, on change de sujet. Non,
fait qu'aujourd'hui, à Pop 162, 2.5.
Donc, voilà, c'est mon entrée dans BoJack Horseman, qui est quand même assez révélatrice de tous les sujets et les thèmes que cette émission-là, qui oui, c'est une série animée, mais c'est pas du tout pour les enfants, là, on va se le dire. Mais, donc, c'est comme ça que j'ai été initiée à l'émission, puis je sais pas comment ça s'est passé avec vous, mais est-ce que c'était quoi vos premières impressions?
Moi, je peux-tu le dire?
Oui, vas-y.
Hey, je m'entends pas, attendez.
Je t'entends.
Moi, c'est parce que je suis quand même fan du travail de Zéa qui était avec nous. Puis elle a posté sur Facebook qu'elle était au Salon du livre, mais pas pour signer des livres, parce que personne n'avait voulu publier sa fanfiction de BoJack Horseman.
Qui n'existait pas, qui est un mythe.
Qui existait pas, puis là tout le monde a liké, puis moi comme je veux que Zéa fasse des choses, j'ai liké la publication sans savoir c'est quoi BoJack Horseman, sans que cette publication-là existe pour vrai, juste parce que j'ai liké. Puis bon, tellement de likes, plus de 100 likes, plus de 100 personnes attendaient la fanfiction.
Quand tu reçois de l'amour, il faut que t'en redonnes.
So famous.
Fait, Zéa a fait la fanfiction de BoJack Horseman. Et, ben là, maintenant, je voulais la lire. Fait qu'il fallait que j'écoute la série pour pouvoir avoir les codes pour la lire. Donc, j'ai écouté la série au complet pour pouvoir lire un zine de 8 pages.
Fait que toi aussi, c'était par pression des pères, un peu.
Ouais.
Mais c'était aussi par souci d'exploration esthétique, de savoir qu'est-ce que ton ami allait faire de cette série-là que t'avais jamais vraiment écouté non plus.
Ouais, puis là, le premier épisode commence, puis BoJack essaie d'écrire un livre sur lui. Puis là, tu sais, c'était le destin. Fait que j'ai écouté toute la série en 3 semaines. Je les ai réécoutées, j'ai pleuré, j'ai déprimé. Puis j'ai trouvé que des fois, il y avait un peu de lumière.
Comment avance ton autobiographie, Steph? OK.
Moins bien que mon mémoire.
C'est moi qui la ghost, right?
Nice.
Bon. Fait que voilà. Zéa, toi, est-ce qu'il y a une histoire spéciale entourant ton premier contact?
Je ne me souviens absolument pas de comment je suis tombée sur BoJack Horseman. Je sais pourquoi je suis tombée en amour avec BoJack Horseman, par contre, c'est que, pour faire très court en général, je suis pas une fille très comique. Ben, je suis très drôle, mais j'aime pas vraiment les comédies. En général, c'est la section que j'évitais dans le temps des clubs vidéo. Mais les choses qui sont tristes et drôles me font beaucoup rire. Puis pour moi, il y a comme quelques œuvres comme ça qui arrivent vraiment à bien marier les deux. Puis BoJack correspondait absolument à ça.
Oui, ben oui, ben évidemment.
Donc j'ai accroché absolument. C'est comme, c'était un bijou.
C'était un Insta-like.
Ouais.
Non, et toi, Alex, tu m'étais dit que tu avais juste écouté, avant d'entrer en onde, tu avais juste écouté les deux
saisons.
J'ai
juste écouté deux saisons, je vais les écouter. C'est pas grave, on peut parler de spoilers. Moi, ça me dérange pas, les spoilers. L'important, c'est le chemin pour se rendre là.
Ben finalement, c'est des masques, c'est pas vraiment des animaux, ils les enlèvent, tout le monde est humain.
Ben là, ça scrape tout ce que je voulais parler. Je suis rentré. Non, mais blague à part, je trouvais ça, tu sais, j'ai commencé un peu, je trouvais ça correct pour la moitié de la première saison. Puis je pense que c'est un peu con à dire, mais je crois que c'est sa haine pour le melon au miel qui me fait accrocher.
Mais c'est dans la quatrième saison, ça, non?
Non, mais il en parle dans la première saison, puis c'est quand même assez récurrent.
Ouais. Il y a des gags subtils, récurrents dans ce show-là, mais c'est vraiment le gag sur sa haine pour le melon au miel qui me fait accrocher sur BoJack Horseman. Parce que au final, tu sais, bon... on voit la dualité entre quelqu'un qui essaie d'être vraiment famous, mais qui haït les mêmes affaires que tout le monde. T'sais. C'est vrai que c'est décevant de savoir du melon au miel dans un restaurant.
C'est bon,
déjà.
Du melon au miel.
Mais c'est bon, mais c'est toujours le melon au miel.
C'est toujours du melon au miel. Du melon au miel, du cantaloup, 2-3 fraises pas très belles, puis des raisins.
c'est subtil, il faut savoir l'apprécier. Puis dans un monde où on recherche l'intensité des expériences, le melon au miel, il n'est pas représentatif de l'intensité de l'expérience.
C'est le fruit beige.
C'est le fruit beige. Oui, c'est ça. Ben, avant d'entrer en onde, parce que c'est quand même un sujet vaste, puis on avait eu beaucoup, beaucoup d'idées avant justement, on en discutait dans les derniers jours, puis c'est une émission très, très riche. Fait que je me disais qu'une façon d'aborder un peu le sujet, ce serait de faire un tour de table. Là, Zéa, elle a pas l'air contente parce qu'il fallait qu'elle fasse un choix, mais un tour de table où on pourrait essayer de parler de notre personnage préféré, parce que BoJack Horseman, c'est vraiment une série qui est basée sur les personnages et sur le développement de personnages. Personnellement, je pense que j'ai jamais vu une série... montrer des personnalités aussi nuancées et complexes et aussi paradoxales, et beaucoup de personnalités, parce qu'il n'y a pas juste deux ou trois personnages principaux qu'on voit un peu là, leurs entrailles. Là. Donc, essayer de un peu nos personnages préférés, mais peut-être plus ceux auxquels on s'identifie le plus, ou ceux qui nous ont accrochés, ou les raisons. Voilà, ah. Si quelqu'un veut...
C'est malheureux tout à l'heure, parce que je suis arrivée en retard parce que je venais de l'épisode sous l'eau, donc c'était difficile, j'ai dû sortir de l'eau, enlever mon casque pour arriver en onde. Puis là, pendant que je faisais tout ce changement dans les vestiaires de la piscine de l'UQAM, ça m'est apparu, puis là je me suis dit « ouais, je suis vraiment comme Princess Caroline ». Puis c'est gossant parce qu'elle me gosse, ce personnage-là. Elle est toujours en train de remonter le moral à tout le monde, puis dire qu'ils sont bons, puis qu'ils font des projets, puis régler leurs problèmes, puis là... gossante pour tout le monde, parce que, tu sais, des fois, les gens, ils ont envie de rien faire. Puis c'est gossant d'avoir quelqu'un qui est toujours en train de te pousser derrière, en train de dire « Non, mais t'es bon! » Fait qu'à chaque fois que j'écoutais l'épisode, la série, c'est vraiment pas le personnage auquel j'aurais voulu m'identifier. J'aurais aimé ça m'identifier à Diane. Genre, j'aurais aimé ça être une personne déprimée qui fait des choix un peu questionnables pour essayer d'être heureuse, mais qui finalement, qui est juste cynique, puis qui se met jamais de l'avant, puis qui fait... Bon, c'est ça. Bref, quelqu'un qui... Comme ça. C'est comme ça que j'aurais aimé ça m'identifier. Puis je l'aime vraiment beaucoup, ce personnage-là. Puis là, tout à l'heure, dans le vestiaire, en me changeant, j'ai réalisé que j'étais pas ça. Mais je trouve ça... Puis je trouve que c'est un personnage super intéressant, parce qu'elle fait un travail de care pour tous les autres personnages qui réussissent en grande partie grâce à elle. Elle est tout le temps sur tous les fronts en même temps. Elle est toujours en train de diviser ses émotions personnelles de sa carrière, parce que la première saison, quand que BoJack puis elle iront, la première chose qu'elle fait, c'est quand elle rappelle pour lui dire « Ah, t'as tel contrat, telle affaire, inquiète-toi pas, je suis capable de diviser mes émotions du travail que je dois faire pour toi. » Toujours, finalement, elle divise jamais sa vie personnelle, parce qu'elle est toujours en train de régler sa vie personnelle à lui en plus de sa vie professionnelle. Mais sa vie personnelle à elle est toujours effacée dans tout ce travail-là. Donc, c'est un personnage hyper problématique, parce que pense à toi, m'en est fille. Mais c'est un personnage super intéressant aussi.
Mais c'est intéressant, que tu dises que, en fait, t'aurais aimé être comme Diane et que t'es plus Princess Caroline, parce que moi aussi je m'identifie vraiment beaucoup à Princess Caroline, au sens où tu veux toujours régler les problèmes de tout le monde, tu veux un peu être la cheerleader de tout le monde, mais moi c'est la phrase qu'elle dit à un moment donné, c'est que je prends compulsivement soin des autres quand ma vie va vraiment mal. Je trouve que c'est une façon, c'est comme ça que je vis ma vie aussi là.
Puis elle est vraiment badass, parce qu'elle réussit sa propre vie à travers tout elle a une carrière. Fait pas juste s'occuper de la carrière des autres, là.
C'est ça. Puis l'épisode aussi où BoJack lui fait un peu une espèce de wake-up call, ou faire comme... Mais comme que toi, tu agisses comme ça et tu règles tous mes problèmes, ça me fait sentir vraiment inadéquat. C'est une façon très, très crue et explicite de montrer ce problème-là. Puis c'est ce que le show réussit très bien. C'est tellement bien écrit que ça fait juste tout te mettre dans ta face, puis tu peux pas vraiment nier tout ça. Mais moi, je la trouve pas gossante. Je trouve que Diane, au contraire, est vraiment très gossante.
Ouais.
Parce que il y a comme une espèce, surtout dans les premières saisons, où elle est très condescendante avec tout le monde. Et on le voit plus tard dans les 3e, 4e saisons, où finalement, elle est pas mieux que tout le monde. Elle vit une déconfiture totale. Et comme elle se rend compte que toute sa manière d'aborder la vie de façon cynique, un peu hautaine, ou de comme un peu juger tout le monde, mais jamais vraiment s'impliquer là-dedans, c'est très nocif pour elle. Fait que nécessairement, moi, je trouvais que ça, c'était plus problématique des fois aussi. Tout est problématique, on va se le dire.
Oui, il n'y a pas un personnage qui est une scène, on va se le dire.
Mais moi, j'avais envie que tu répondes avant.
Moi, j'en ai aucune idée.
Ah ouais?
Mais j'aimerais ça être Todd.
Ah.
Mais je suis pas Todd.
Pourquoi t'es pas Todd? Puis pourquoi t'aimerais être Todd?
Todd... Todd, oui, psychopop.
Psychopop?
Tant que c'est pas astropop, là, s'il vous plaît. Excusez, c'était mon bashing.
D'ailleurs, BoJack est capricorne comme moi. On peut continuer.
Oui, en fait, c'est que Todd, ça va vraiment pas bien dans sa vie en général, mais tu sais, il réussit à passer au travers. Il se fait bâcher par un ami qui l'aime pas vraiment, comme BoJack. Puis tu sais, malgré des tentatives de d'opéra rock qui ne fonctionne pas vraiment. Mais...
Son opéra rock est génial.
Je sais. Le titre est un peu long, par contre, mais ça risque de fonctionner. Mais il risque de passer au travers.
C'est, mais en fait, c'est que les affaires lui arrivent un peu. Ouais. Il est un peu, tu sais, dans un laisser-aller total où il pense qu'il fait rien. Puis des fois, quand il concentre le peu d'énergie qu'il veut mettre sur quelque chose, tout le talent ressort, ou toute son imagination ressort, puis il se revient sur un deuxième, il fait un opéra rock, il fait une entreprise, il revire l'entreprise, il comme...
C'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux, mais les gens lui font pas confiance. Puis c'est pour ça que je pense que moi et Todd, on ferait vraiment une bonne équipe. Ouais. Les gens me font beaucoup confiance et pourtant, je suis pas capable de faire grand-chose. Mais je pense qu'en équipe avec Todd, quelqu'un que tout le monde trouve insignifiant finalement, mais qui a plein de talents cachés, ce serait vraiment impressionnant. Les gens viendraient me voir pour me demander des choses, puis avec toi, on trouverait des moyens de les faire.
Mais au fond, t'es un peu comme Mr. Peanut Butter.
Ben, en fait, c'est mon tour là, OK? Mais je m'identifie à tous les personnages, vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est vraiment facile pour plusieurs personnes de faire « Ah, t'es vraiment une Diane » ou « Ah, t'es vraiment une princesse Caroline » parce que, bon, moi aussi, je suis cheerleader même professionnel. Je suis, entre autres, payée pour aider les gens à passer à travers leur crise d'anxiété. Mais j'ai vraiment un gros côté Mr. Peanut Butter que je montre pas à tout le monde, mais j'admire beaucoup sa façon. Mr. Peanut Butter semble être un personnage sans profondeur, innocent dans le sens d'être un idiot et aussi dans le sens de l'innocence. T'sais, on a l'impression qu'il a rien vécu puis qu'il connaît rien de la vie. Mais c'est quelqu'un qui choisit le bonheur ou en fait qui choisit de voir le côté positif des choses. Bon, ça va lui nuire puis c'est pas nécessairement une démarche parfaite non plus. Mais j'admire ça, j'admire son amour, j'admire son côté chien de faire « Ah ouais, c'est de la merde, ben nice, pour ces raisons-là exactement. » Tu sais, il accepte vraiment les gens pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, même dans leur côté de merde. Puis on voit dans... Ben la relation entre Mr. Peanut Butter et Diane dans la saison 4 est absolument fascinante pour ces raisons-là. Puis là, il y a une grosse guerre à savoir « C'est-tu Mr. Peanut Butter qui est comme... le problème, ou est-ce que c'est Diane? » Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est Diane, mais ça dépend des intentions. Mais ce qui sauve Mr. Peanut Butter, dans le fond, c'est que ses intentions sont bonnes, même quand il fait de la merde, tu sais.
Oui, c'est ça, ça vient toujours d'une bonne place.
En même temps, oui puis non, parce que un des trucs qu'il veut le plus, c'est de se faire aimer des autres. Fait que des fois, il est positif ou il continue d'aimer les gens, même dans leurs défauts, parce qu'il veut recevoir en retour cet amour-là. Fait qu'il y a un petit côté égoïste aussi, parce qu'il veut toujours cette approbation-là. Des fois, pas tout à fait méritée, des fois méritée, mais il cherche vraiment à convaincre les autres de l'aimer, puis de se faire répéter qu'il l'aime, sans que ce soit nécessairement, tu sais, c'est là que ça devient problématique, c'est que il veut pas toujours mettre les efforts pour recevoir cet amour-là. Des fois, il veut juste qu'elle lui tombe
dessus. Être aimé. Mais moi, dans la relation Diane Mr. Peanut Butter, je suis vraiment du bord de Diane. C'est-à-dire que j'aime beaucoup quand Diane dit, je pense, dans la première saison, there is no deep down. C'est que oui, c'est bien beau les intentions, mais qu'est-ce que t'as fait? Quel geste est-ce que t'as posé, finalement? Parce que les intentions, les émotions profondes, les courants qui déplacent, les gestes... Finalement, au fond, ce qui est important, c'est les gestes, puis c'est ce qui est advenu dans le réel, tu sais. Donc, en ce sens-là, Diane est comme sauvable à ce niveau-là, parce que si t'oublies les intentions, finalement, c'est vrai que Mr. Peanut Butter semble pas écouter ce que Diane veut, tu sais.
Non, c'est souvent... Ça vient, comme tu disais, d'un côté, justement, égoïste, c'est ça. Donc, mais tout ça me fait penser, on parle de « Ah, moi, je suis plus tel personnage, plus tel autre ». C'est sûr que ça montre aussi la complexité de l'écriture de la série, mais ça me fait juste penser à, dans la première saison, quand tout le monde dit « Are you a Zoe or a Zelda? » Puis je pense que la série est surtout basée sur cette relation-là au stéréotype. Ou c'est sûr que ça se passe à Hollywood éventuellement. Et ils sont traversés justement par le cinéma, par la fiction et par toutes tous ces stéréotypes là qui composent le cinéma populaire. Et chaque personnage essaie toujours de se placer et de se représenter par rapport à un stéréotype. Zoe au Zelda, ou le personnage déprimé, le personnage actif, ou comme Officer Meow Meow Fuzzy Face, ou toute la conversation, savoir si c'est si un rogue agent ou un, je sais plus c'est quoi le nom.
Bon cop, bad cop.
Ouais, un bon cop, bad cop. Est-ce que c'est plus comme... Fait il y a ça aussi, et ça fait écho dans la représentation où il y a la moitié des personnages qui sont des animaux et d'autres qui sont des humains, ce que il n'y a que la série animée qui peut nous permettre ce genre de représentation-là. J'étais curieuse de savoir un peu c'est quoi votre approche de savoir qu'est-ce que les animaux représentent, ou est-ce que nécessairement est-ce que l'animal est en lien aussi avec son stéréotype, parce qu'on parle de Mr. Peanut Butter et le chien, mais le chien c'est fondamentalement un animal dépendant de son maître, et même Mr. Peanut Butter le dit là, quand il lui donne un pendentif à Diane, « I'm dependent of you », là. Donc, il y a toute cette idée d'approbation, là. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres parallèles que vous pouviez soulever?
Ben, la série en elle-même est parsemée de jokes en lien avec les stéréotypes des animaux, là, dans le décor. Tu sais, je pense que la conception... OK. Là, c'est le moment où je dis que je suis vraiment une fan de Lisa Anna Walt, puis du design de cette émission-là, puis du personnage, etc. Puis, ben, elle-même le dit, tu sais, on a conçu l'émission visuellement pour qu'à chaque moment, on puisse faire pause et qu'on puisse voir des jokes ou voir des références ou s'amuser comme avec ce qui est présenté devant nous. Puis, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont des jokes en lien avec des animaux, des jeux de mots, un panier de balles chez Mr. Peanut Butter, ou genre, ce genre de trucs-là. Puis ça sert à ça, entre autres, mais la signification même de, tu sais, pourquoi BoJack Horseman est un cheval est moins important, je pense, que genre, le fait qu'il est un cheval, qu'est-ce que ça va amener dans sa vie comme réflexion, ou comment les choses vont être exprimées. Quelles métaphores vont être utilisées, dans le fond, pour exprimer ce qu'il ressent? Puis dans le cas de BoJack, il va avoir les chevaux sauvages versus... Mm-hmm. Bon.
Il y avait beaucoup de... Je faisais un petit peu de recherche, puis il y avait surtout la joke « A horse walking into a bar, then why the long face? Mm-hmm. » Donc, il y avait beaucoup d'idées que l'idée de que le personnage principal soit un cheval, ça partait de cette blague-là. Parce que, nécessairement, cette image-là de BoJack dans un bar qui est déprimé, C'est la base. On commence avec ça. Puis il y avait une autre analyse que je trouvais très intéressante qui disait que le cheval, historiquement parlant, c'est un animal que l'humanité s'est approprié pour aller plus vite, pour faire des travaux manuels. Sinon, on l'utilisait comme moyen de transport, on l'utilisait sur les champs, dans les fermes, pour faire... Aujourd'hui, un cheval, ça sert plus à grand-chose, sauf peut-être des courses de chevaux. Puis nécessairement, c'est comme un animal qui était à la charge de l'humanité, mais qui a plus vraiment sa signification aujourd'hui, comme BoJack, qui était une vedette de sitcom dans les années 90 et qui cherche un peu sa signification dans le monde.
Mais je pense que c'est pour ça que quand on en revient, parce que c'est vraiment important pour lui de courir, il voit des chevaux sauvages courir, fait que c'est peut-être cette dualité-là, il est plus utile comme un cheval dans le monde des humains, puis en plus, il peut pas revenir à un monde de chevaux sauvages dans les prés qui peuvent avoir cette liberté-là.
Et je pense que ça vaut peut-être la peine de mentionner que horse... c'est aussi un mot pour parler de drogue, et que ça va être utilisé dans le fameux épisode avec Sarah Lane qui va consommer du BoJack.
Je pense que c'est le seul spoiler de la série que tu vas apprendre.
Non, c'est pas grave.
Mais j'ai rien dit, j'ai juste dit que c'est un épisode avec Sarah Lane.
C'est parfait.
Puis de la drogue qui s'appelle BoJack.
Ouais, c'est ça.
De l'héroïne plus précisément.
Ouais.
OK. C'est bon à savoir. Horse.
Mais c'est intéressant de parler aussi... Je suis sûre que je saute un peu du coq à l'âne. Fait que si
c'est
vous
parfait.
Avez des idées...
Non, vas-y.
Mais tu sais, moi, je trouve qu'on peut revenir sur les animaux. D'ailleurs, le coq, tu sais, il y a différents niveaux. Des fois, c'est sur le stéréotype des animaux, comme pour BoJack, Mr. Peanut Butter. Mais des fois, c'est en référence iconique, comme l'éditeur qui est un pingouin.
Mm-hmm.
Ouais. Ça permet des jokes, comme la serveuse qui sert du steak de bœuf alors que c'est une vache, ou les poulets qui essayent de se libérer, mais qui, en tout cas, qui élève d'autres poulets. En tout cas, bref, il y a comme tout dans la... Il y a différentes utilités, je pense, au fait qu'il y ait des animaux, que c'est pas seulement
L'épisode avec les poulets, on peut arrêter un instant là-dessus.
Ben oui.
Mais ça, c'est fascinant. Là.
Quel chef-d'œuvre. Ben, pour ceux qui n'ont pas écouté, là, juste comme expliquer brièvement, c'est ça, il y a une ferme qui est tenue par des poulets, qui élèvent des poulets pour la consommation. Fait que nécessairement, il y a juste deux espèces de poulets. Donc, une qui n'a pas appris le langage, qui vit dans une cabane, et d'autres qui élèvent les poulets et qui ont appris le langage humain. Ouais. Puis là, il y a Todd qui décide d'aller sauver un des poulets.
Mais c'est intéressant parce que cette question-là n'avait pas été encore posée dans la série, c'est-à-dire, et je poserai la question pour les Pokémon aussi, là, je sais toujours pas, est-ce qu'il y a des animaux domestiques aussi? Est-ce qu'il y a des chiens est-ce que Mr. Peanut Butter peut avoir un chien et tout? C'était comme pas encore clair, ou en tout cas, on avait l'impression que non, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ces gens-là mangent puisqu'ils ont l'air de consommer de la viande, etc. Et là, on avait la réponse dans cet épisode-là et c'était vraiment bien amené et c'était aussi antispéciste et c'était aussi sur la question du langage, vraiment, vraiment, qu'est-ce qui fait l'humanité finalement, c'est le langage dans le monde de BoJack Horseman.
Mais c'est exactement ça. Puis ça fait un peu écho à notre langage, surtout en français où on a deux mots pour parler de poules et de poulets. Mm-hmm. Parce que la semaine dernière, j'étais à l'épicerie puis il y a une petite fille qui disait à sa mère « Ah, regarde, c'est des poules en regardant le contour des viandes. » Puis sa mère a dit « Non, 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 ça, c'est du poulet. Quand on mange, c'est le poulet. Puis quand c'est à la forme puis il marche, poules. C'est des poules. » Fait qu'il y a toute cette ambiguïté.
Ouais, ou en anglais, c'est pour le mouton, là.
Ouais, ouais, aussi, le lamb.
Mais je pense que... c'est sheep puis mouton.
Mais je pense que même en anglais, c'est hen pour parler vraiment d'une poule puis chicken quand tu parles de la nourriture en tant que telle, mais j'avais une... Ah oui, ben Pokémon, ça a été réglé, ça.
OK, c'est réglé?
Il y a des gens qui mangent des Magikarp puis des queues de Slowpoke.
Ah, mon Dieu.
Même dans les jeux, là.
Y a-tu des vegans dans Pokémon?
Bah, probablement, là. Je veux dire, ça doit être une des centaines de variétés de trainer Pokémon que tu retrouves dans la nature, là. J'imagine qu'il doit avoir, Vegan Vicky, Wanna Fight You, quelque chose de même, là, sûrement, là.
Mais ouais, mais c'est vrai que c'est important les animaux, puis ça permet des choses dans la série comme l'épisode sous l'eau, parce qu'il y a des animaux qui respirent dans l'eau, il y a des animaux qui ne respirent pas dans l'eau, donc tu sais, c'est ça apporte tellement des possibilités de questions sur permettre un épisode d'humour muet, de permettre des références avec le monde humain normal comme justement le pingouin puis la maison d'édition, permettre de questionner genre une vache qui sort de la viande. Je pense qu'il y a quand même vraiment plusieurs niveaux que ça a permis d'humour à l'émission.
C'est ça, parce que chaque animal donne un peu l'opportunité de faire un commentaire sur soit le stéréotype associé à l'animal, soit une blague ou la question de manger de la viande ou pas.
C'est drôle et c'est souvent éthique aussi.
Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est très cher j'ai oublié son nom, donc à Raphaël Bob Waxberg, l'écrivain et celui qui écrit l'émission. Je pense que Stéphanie, t'avais lu une entrevue de lui qui parlait un peu d'écriture inclusive, puis de comment on pouvait essayer de justement écrire une émission aujourd'hui pour adultes, mais tout en étant inclusif, puis de pas essayer d'intégrer un commentaire aussi politique.
Il parlait de la difficulté, surtout dans l'humour, de pas faire seulement « Ah, c'est drôle, donc on peut rire de tout », mais si on peut rire de tout, comment on peut en rire, puis comment, en fait, des fois, on peut faire des erreurs qui sont plus drôles, mais qui sont blessantes, comment, c'est quoi, parce qu'il dit beaucoup que, tu sais, rappelle beaucoup le pouvoir, justement, d'avoir une série télé aussi populaire, puis les responsabilités que ça vient à faire de l'humour politique pour des personnes qui, ça se peut, qui n'aient jamais entendu parler d'un tel sujet. Donc, il faut que la première fois qu'ils en entendent parler, ils l'entendent correctement. Puis il raconte dans son entrevue que, justement, il a fait une erreur à un moment donné. Il faisait une blague sur la communauté autochtone de l'Alaska, dont, malheureusement, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que c'est problématique. J'ai oublié le nom. Inexcusable. Donc, il dit qu'il fait une référence en utilisant les préjugés associés à cette communauté-là. Puis, clairement, dans l'émission, on se rend compte que c'est problématique que BoJack fasse ce commentaire-là. Mais il a réalisé plus tard, parce qu'une personne issue de la communauté a fait un tweet disant « Ben, c'est la seule fois qu'on en parle de nous, puis il faut encore qu'on ressasse les mêmes préjugés. » Puis là, il s'est dit « OK, même si on se rendait compte que c'était problématique, ça reste... » que j'aurais pas dû faire ce gag-là parce que j'ai encore perpétué le même préjugé.
Où il n'y a pas eu le revers de finalement on voit BoJack en Alaska puis on voit autre chose. T'sais, on voit pourquoi son commentaire était problématique. T'sais. Là, on comprend que son commentaire est problématique, mais c'est vrai que ça nous a pas donné d'insight sur
comme
la
critiquer justement le stéréotype et le préjugé, il faut que tu montes l'envers de la médaille parce que sinon, il n'y a pas de réelle critique, tu fais juste le recenser. Même si tu veux amener un deuxième degré dans ton commentaire, faut qu'il soit apparent, faut pas juste dire « Ah, mais c'était juste une blague.
» Puis tu sais, ça suffisait pas, c'est ça son point, c'est que dans l'émission, il y a une dispute après avec Caroline qui dit « Non, mais arrête d'être offensant. » Fait qu'il y a une dispute où on voit que c'est problématique, puis c'est pas juste recenser le préjugé, entre guillemets, mais au final, on le dépasse pas. C'est là que ça reste que ça marche pas, parce qu'il aurait fallu, comme tu dis, qu'il aille en Alaska, puis qu'on puisse voir finalement qu'est-ce qu'il y en est pour vrai. En dehors de ce préjugé-là.
Cela dit, admettre son erreur et en parler, puis en parler comme, puis poser la question, puis essayer d'aller au-delà de ça, puis de pas refaire le même genre d'erreur, c'est hot.
Ouais, en plus, récemment, je pense que c'est sorti comme hier ou avant-hier, ça fait longtemps qu'il y a des critiques à propos du casting de la voix de Diane, qui est une femme vietnamienne, mais nécessairement, c'est Alison Brie, je pense, qui fait sa voix. Puis il a répondu pour la première fois depuis, ça fait super longtemps là, qu'il reçoit ces critiques-là, puis il avait décidé de garder le silence, mais là, il a décidé de parler, puis il a dit, il se questionnait un peu par rapport à ça. Il disait, ah, ben, si c'était à refaire du début, ben, comme, j'aime mon casting et tout, mais si c'était à refaire du début, je ferais plus attention. Et, comme, son silence, comme, il dénonçait aussi le silence qu'il avait porté là-dessus, parce que nécessairement, quand t'as cette tribune-là, quand tu écris pour une série aussi populaire, tu te dois de répondre à toutes ces problématiques-là, parce que garder le silence, ça règle pas le problème, ça fait juste l'empirer. Mm. Puis je trouvais ça comme, c'est très sensible pour un écrivain de se mettre en danger comme ça, mais juste de montrer la façon dont on peut s'excuser, puis on peut essayer de devenir toujours meilleur. Puis c'est un thème très important aussi dans la série, de comme, essayer de toujours se dépasser soi-même.
Mais aussi l'échec de cette tentative-là, mais ouais.
Surtout l'échec.
Tous les personnages essaient de devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, puis ils y arrivent jusqu'à un moment où ils n'y arrivent plus, puis ça recommence. Ouais, ouais.
Mais je suis vraiment curieux, parce que c'est une question qui me semble ambiguë, là. Je suis vraiment désolé de mon ignorance un peu, mais la question du whitewashing dans tout ce qui est personnages animés, que ce soit genre dessin animé, jeux vidéo, tout ça, à quel point est-ce que c'est similaire ou pire ou moins pire ou whatever que, je sais pas, bon, l'exemple de Ghost in the Shell avec la fille. Je suis vraiment désolé. Scarlett Johansson. Ouais. Non, mais tu sais, c'est parce que c'était si mauvais, ce film-là. Mais justement à cause de ça, mais à quel point est-ce que c'est similaire ou pire ou moins pire, peu importe.
Mais le personnage est asiatique.
Oui.
Mais je pense qu'il y a une différence qualitative, mais je pense que c'est...
Oui. Parce que Scarlett Johansson, c'est carrément une blanche qui joue personnage asiatique. C'est vraiment son apparence.
Ouais. Mais après, ça sert à rien de hiérarchiser en disant « Ah, il y a une situation qui est pire, il y a une situation qui est moins pire. Mm-hmm. » Il y a des situations qui portent des problématiques différentes. Si on parle du blackface, c'est que ça a un historique derrière. Ouais. Fait que c'était comme... C'est en plus d'enlever une possibilité d'emploi à une personne noire, de mal la représenter, on perpétue un stéréotype raciste issu de l'esclavage. Donc, c'est comme à plusieurs niveaux très problématique, immensément problématique. Mais après, quand on représente un personnage asiatique, qu'on pense que, tu sais, qu'on veut mettre en avant la diversité, qu'on veut réfléchir ce parcours-là de vie parce qu'on s'en va dans sa famille et tout, mais qu'après, en contrepartie, on empêche qu'une personne issue de cette communauté-là puisse porter son propre narratif, puisse porter sa propre expérience de vie, sa propre histoire, et avoir un salaire associé à ça. C'est là que ça devient problématique. Ouais. C'est pourquoi
parce que Diane n'a pas d'accent. Sa famille a un accent, mais de...
de Boston, là.
Ouais. Genre un vieil accent, mais reste que c'est... Comme tu dis, c'est donner l'emploi à cette personne-là aussi.
Dans la réflexion sur justement l'inclusivité, la diversité, faut pas juste que ce soit dans les dessins ou comme dans l'écriture. Ouais. Faut aussi aller jusqu'au bout, puis y aller comme dans la production, puis toute la machine qui est derrière la création d'une série télé. Faut que tu sois pas juste, t'engages plein de personnes blanches, tu leur donnes ton argent,
parce
puis après,
comme
tu décides.
Comme tu disais aussi, Steph, tantôt, une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas représenté la communauté en Alaska de la bonne manière, c'est entre autres parce qu'il n'y avait pas de personnes autour d'eux qui connaissaient, qui vivaient dans cette communauté-là. Mais de la même manière, tu sais, quand tu as des gens dans ton équipe, puis c'est des grosses équipes, là, qui vivent d'autres expériences que la tienne, ben nécessairement, là, t'en es conscient, puis tu peux l'inclure dans ton écriture aussi, tu sais.
Ou tu peux poser la question, puis si t'es dans une équipe ouverte, puis qu'il écrit une ligne à Diane qui est pas... qui est raciste, ben la personne qui est issue de la communauté peut faire ben je veux pas lire ça, c'est propre comme ça passe pas. Donc tu sais ça permet d'avoir réellement genre d'inclure dans la réflexion les bonnes personnes qui ont les bonnes connaissances, qui ont la bonne histoire pour
cela dit, on voit aussi des trucs inclus intéressants comme Todd qui est asexuel.
Oui.
Puis c'est amené tellement d'une belle façon, puis ce que j'aime c'est que ça devient pas comme nécessairement le je suis asexuel, d'accord, alors je vis mon asexualité. Mm-hmm. Il se pose des questions sur qu'est-ce que ça représente pour lui, il va voir des gens, puis ça devient comme vraiment central dans sa personnalité sans devenir la seule chose qu'il représente.
Il y a une belle réflexion aussi sur il y a un épisode au complet sur les étiquettes. Puis oui. C'est ça, parce que la réflexion se fait pas en dedans d'un épisode. Je pense que c'est quasiment sur la saison au complet.
Oui.
Bojack lui dit, je sais plus c'est qui lui dit. En tout cas, mais il y a quelqu'un qui lui dit, je pense que tu serais peut-être ça. Puis il dit, est-ce que je suis ça? Puis là, il est vraiment.
C'est sa quête.
C'est comme ça. En plus, c'est Todd, là. Il s'en va faire une aventure, là. Puis c'est sa quête pour essayer de se découvrir lui-même. Puis c'était vraiment. C'est beau parce que c'est un peu. Les personnes qui se disent du jour au lendemain, ben, moi, je suis ça. Ça représenterait très bien comme le cheminement, je cherchais le mot, le cheminement que ça prend pour essayer d'explorer sa sexualité. Puis des personnages asexuels, on n'en voit quasiment jamais, là.
Ce qui est intéressant, c'est que ça part d'un concept, parce que des fois, il y a des expériences qui sont ressenties émotivement, physiquement, mais qui sont difficiles à exprimer parce que t'as pas le concept sous lequel le concevoir. Mm-hmm. Puis là, le concept est amené, puis il part de ça, tu sais.
Oui. Puis aussi, je pense que c'est dans les derniers épisodes de la dernière saison où il rencontre l'axolote.
Ouais.
Puis on dirait qu'il y a comme une connexion où elle dit « Ah ben non, mais je sais que t'es asexuelle, moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter à aller prendre un verre ou whatever. »
Ouais.
C'est vraiment cute la façon que c'est amené, mais comme le voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mais c'est ça, asexualité, mais il y a toute la question des drogues qui est amenée aussi de façon très décomplexée et en rapport souvent avec justement la consommation de drogue, mais comment on peut essayer de s'en sortir, mais comment la relation peut se vivre avec la drogue au quotidien, c'est des sujets quand même assez harsh.
La drogue est très destructive dans BoJack Horseman, là. Il n'y a pas beaucoup de plaisir et de récréation, là. C'est vraiment comme... l'arme destructrice, puis c'est intéressant de voir que la tendance addictive et autodestructive de BoJack Horseman semble être dans son sang, parce que bon, sa fille / sœur / un autre cheval va vivre un peu le même genre d'expérience mais différemment, tu sais. Elle va, je pense qu'elle se met à consommer des pilules pour
oublier.
C'est sa mère qui lui met dans
c'est la mère de BoJack.
C'est sa mère. C'est la mère de BoJack. Oh my God.
Parce que là, il y a aussi l'idée de la grossophobie. Sa mère, elle la trouve trop grosse. Donc, elle lui met dans son dos des laxatifs dans son café pour qu'elle perde du poids. Puis là, finalement, elle se ramasse.
C'est des amphétamines, non?
Des amphétamines.
Pour lui couper la faim.
Pour lui couper la faim, puis elle se ramasse à l'hôpital.
Comme dans
à cause
Requiem
de ça.
For a Dream.
C'est terrible.
Oh, on va pas
de ce film. J'ai eu ce film-là. J'étais encore vierge de ce film-là.
Ce what, là, c'est.
Ouais.
C'est le what de BoJack qui est derrière.
C'est vrai qu'il y a des questions intéressantes par rapport à la consommation de drogue. Aussi, jusqu'où le problème que ça occasionne dans ta vie, tu peux le porter. Tu sais, Todd découvre son asexualité, entre autres parce que BoJack couche avec la fille de laquelle il voulait avoir une relation intime. Puis là, Todd, tu comprends pas trop pourquoi il est aussi fâché, parce que d'un côté, il aurait pas voulu coucher avec elle, mais de l'autre côté, BoJack l'a un peu trahi, si on veut, en faisant ça. Puis c'est là qu'il va réfléchir à son asexualité. Mais à ce moment-là, il regarde BoJack puis il lui dit, tu sais, c'est pas de la faute de la drogue, c'est pas de la faute de ta famille, c'est pas de la faute de ta carrière, c'est pas de la faute des autres. Si t'es comme ça, c'est de ta faute à toi.
Ouais.
c'est à un moment donné, il va falloir que ce soit toi qui t'affrontes puis que tu t'essaies de régler tes problèmes, parce que tu peux pas toujours dire ah, c'est pas de ma faute, j'ai été sous, j'ai oublié, j'ai pris de la drogue, j'ai oublié, quand tu blesses continuellement les gens. Donc à la fois ce côté de il faut comprendre la souffrance liée à la toxicomanie, puis il faut comprendre les limites.
Oui, mais aussi que la toxicomanie, c'est pas nécessairement... C'est le symptôme d'un autre problème.
C'est ça que je voulais dire aussi un peu, là, en disant que c'est une arme, c'est que c'est l'outil qui va servir à la destruction, mais le problème est ailleurs, tu sais.
C'est ça, le problème est psychologique la plupart du temps aussi, là. Puis c'est sûr que ça l'aborde très rarement de façon directe, mais les troubles mentaux sont assez présents là-dedans aussi. On parle beaucoup de dépression, ça, c'est quasiment... Beaujac est en dépression du début à la fin, là. C'est, oui.
mais c'est jamais... Moi, saison 4.
Mais la saison 4 finit très bien pour lui, étonnamment.
Ça va chier à saison 5.
Ouais, c'est ça. Il y a encore une saison qui se
passe. Il a fallu que je prenne un break parce que le dernier épisode que j'ai regardé, je suis vraiment pas loin, c'est quand il se ramasse en Arizona. Puis il va rencontrer son ami.
Oh my god.
Chevreuil. Puis comme, c'est une boule de neige. Genre, sans fin cet épisode-là. Puis j'étais comme, non, je peux plus. Je peux juste. Faut juste prendre une pause de genre une semaine. Là.
C'est très triste.
Il n'y a rien qui marche, là. C'est des mauvaises décisions une après l'autre.
C'est ça, parce que un peu comme c'est un peu le rythme aussi de la série, c'est au moment où on pense qu'il va peut-être avoir un peu d'espoir ou un peu de lumière, ça dérégole, puis c'est très très déprimant. Je pense que
Tu pensais que ça allait bien, tu sais, il passe deux mois, il devient ami avec la famille, puis
ouais, c'est ça, puis comme il avait l'air d'être heureux
jusqu'au dernier moment, il accompagne quand même la jeune à son bal, ça se passe bien, on a du plaisir, il fait un homme de lui en refusant les avances de la petite, tu sais, d'abord, mais finalement c'est son rejet final qui va faire qu'il va retomber dans
qui retombe exactement dans les mêmes patterns qu'il était avant.
Ouais. Mais c'est intéressant, c'est toute la santé mentale aussi, c'est beaucoup autour de la performance puis du syndrome de l'imposteur où la dépression s'ancre, parce que, tu sais, on représente Hollywood, qui est une société de succès. On s'attend à ce que les gens aient réussi, sont plus grands qu'eux-mêmes, ils sont reconnus pour leur talent par une quantité phénoménale de monde, puis tous ces personnages-là sont toujours en train de se dire « Ben, il y a personne qui s'intéresse à moi, puis je fais rien de bien, puis qui voudrait une biographie sur ma vie quand je suis rien? » Puis c'est toujours cette question-là d'essayer de faire des choses, puis de trouver que ça mène nulle part, puis de pas être fier de soi-même, de pouvoir connaître le succès sans pouvoir connaître la fierté. Moi, je trouve que quand même...
Puis que le succès amène pas le bonheur nécessairement. Mais ce sentiment d'imposture-là, ce qui est super beau, c'est que c'est exactement le sentiment qui motive le travail de création, d'entre autres Lisa, que je connais plus que l'auteur. Là. Mais Lisa va le dire elle-même, elle travaille à partir de son sentiment d'être capable de rien faire. Puis là, elle se sent nulle, elle sent qu'elle n'y arrivera pas, elle sent qu'elle est une artiste ratée, mais elle finit par produire quelque chose pour se moquer un peu d'elle-même. Puis, ben naturellement, ça touche les masses, tu sais, parce qu'on vit souvent ça. Moi, je vis souvent ça.
Ça me fait penser à un échange à un moment donné quand Todd, sa fausse blonde, une vedette, là, où il faut qu'elle sorte avec un gars terre à terre pour avoir l'air près du peuple.
Un gars du monde.
Donc, c'est ça. Puis, à un moment donné, elle lui dit « Ah, est-ce que t'as l'impression... » Ça, c'est l'épisode où ce que t'as de renseigner ça tout le monde, mais personne ne le voit jamais. Puis elle dit « Est-ce que t'as l'impression que les gens te regardent, mais ils te voient pas vraiment, puis ils prennent un peu pour acquis? » Puis là, on comme... Nous, dans cet échange-là, quand elle dit ça, on se fait comme « Ah oui, Tob, il vit ça depuis 20 minutes, depuis le début de l'épisode. » Puis elle dit « Ah, mais toi, tu peux pas comprendre, t'es pas une vedette. »
Ouais.
Puis là, c'est juste « Non, mais on peut comprendre. » C'est juste pour nous montrer à quel point c'est peut-être des problématiques associées à la célébrité, mais c'est des choses que le commun des mortels aussi... vit dans son quotidien, puis ouais.
Puis d'ailleurs, ce summum de l'effacement, c'est dans cet épisode-là qui, sans faire exprès, s'en va sur un podium de mode, puis que malgré lui, son style vestimentaire qu'il porte tous les jours se fait copier par tout le monde et devient cher, mais lui, il fait pas un profit sur son propre style vestimentaire, puis maintenant, tout le monde s'habille comme lui, donc il est encore plus effacé dans la masse. On lui dit « Ah, t'as acheté telle affaire », puis là, lui, il est comme juste « C'est comme ça que je suis ». Donc, c'est comme une représentation ultime de « Il est devenu ordinaire.
C'est quand même
une grosse récupération.
Une récupération aussi du stéréotype des cartoons où tous les personnages s'habillent toujours pareil à tous les jours.
Ouais. C'est le seul d'ailleurs qui s'habille toujours pareil.
BoJack est toujours presque habillé.
Ben les personnages sont en général presque tous habillés de la même façon Diane, tout le temps, sauf des exceptions pour des
Caroline
événements.
Toujours pareil.
Toujours pareil, sauf pour les événements où ils vont porter des robes.
Ouais. Elle a toujours son petit complet jaune.
Elle a toujours
C'est avec les poissons.
Son collier.
Son sabre-loque, finalement. Ouais, familial. Ouais. Quel épisode, l'épisode où la petite fille de Princesse Caroline raconte son histoire devant une classe futuriste. Puis finalement, on se rend compte que c'était seulement une fabulation de Princesse Caroline.
Oui, ça, on a tout notre moment comme de rock bottom dans BoJack Horseman. Moi, c'était cet épisode-là où il a fallu que j'arrête. C'est tout un rapport. J'en reviens à ce que je disais plus tôt. Tout un rapport à la fiction qui est très insidieux, mais qui est très salutaire en même temps, au sens où les personnages vivent dans des fictions et se créent des fictions sur qu'est-ce qu'ils pensent que le monde devrait être. Et ils sont toujours déçus parce que au fond c'était pas vrai, c'était juste une fiction. Fait que c'est comme un peu le moteur narratif de beaucoup de personnages, surtout de surtout Princess Caroline dans cet épisode là mais ouais voilà.
Mais c'est vrai que puis sinon ils s'inspirent eux-mêmes, ils sont pas juste connus, eux-mêmes ont de l'estime pour d'autres personnes puis essaient d'arriver à d'autres niveaux. BoJack, il décide d'engager Diane parce qu'elle a écrit le livre sur Secretariat, qui est le film que BoJack aurait voulu faire. Et
en fait, il aurait voulu... Ouais,
ouais, en tout cas.
Ben, il va le faire plus tard, à moitié, parce que finalement, on l'a remplacé par un ordinateur. Fait qu'il était encore une fois inutile à la, à la société. Pas à la
mais justement, avec l'ordinateur, ça revient avec la métaphore de tout à l'heure avec les chevaux, l'industrialisation, tout ça. Ben, tu sais, les chevaux, à cette heure, ça... À part être exploité dans le vieux port.
Oh my God.
Ben, il est exploité avant quand il tirait des...
Oui, je sais, mais je veux dire, ils sont juste exploités dans le vieux port à cette heure.
Ils sont aussi exploités par nos policiers.
C'est vrai.
Mais c'est ça, mais au final, tout ce qu'on veut, c'est l'image du cheval, non pas son essence. De sa c'est un cheval, ça représente la puissance, la liberté, mais tout ce qu'on veut, un peu comme dans le film de Secrétariat, c'est pas BoJack qu'on veut... C'est son image, c'est qu'est-ce qu'il peut projeter. Mais lui, on s'en fout un peu. Là, c'est un peu comme les chevaux en général.
On peut s'acheter le Mustang puis entendre le trot des chevaux en mettant le clignotant, ça suffit.
Pour vrai?
Wow. Ouais. Oh
on a appris ça. C'est vraiment
cool. Je suis tellement jaloux.
Parce qu'il n'est pas aussi likable que Mr. Peanut Butter, qui est d'ailleurs un chien. Mm-hmm. Et les chiens, pas aussi populaires que les chats sur Internet, mais quand même.
Ah, c'est quand même...
Moi, j'aime beaucoup l'épisode où on voit comment Mr. Peanut Butter s'est fait engager, en fait, où il va se ramasser devant une foule de sitcoms, puis là, le rôle qu'il va jouer est joué par un personnage qui l'a pas pantoute, tu sais. Puis il va juste se mettre à s'adresser à la foule, à être super sympathique. Puis c'est le fait qu'il est donc aimable, donc attachant, qui va faire qu'il va décrocher le job, tu sais, devenir une célébrité.
Et ça montre aussi beaucoup le travail des médias puis la représentation. Tu sais, BoJack est jamais capable de se représenter correctement dans les médias. Il refuse toujours de faire des choses. Il est attaché au mauvais discours, si on veut. Par exemple, il défend le sitcom qu'il a réalisé en disant que ça allait être important dans la vie des gens. Puis tout le monde est comme, non, t'es rendu à faire du cinéma, arrête de défendre ça, s'il te plaît. Puis lui, il continue à vouloir, parce qu'il est quand même fidèle à lui-même, des fois.
Ouais, puis les soldats, ça peut être des trous de cul, hein, on l'apprend dans les premiers épisodes.
Donc, mais il y a cette différence-là entre les deux. Mr. Peanut Butter, il va faire n'importe quoi pour être aimé. Donc, les médias en raffolent, il anime des shows de télévision, il anime les Oscars, il passe à la télévision, il va devenir gouverneur, peu importe.
Il vit des très belles expériences. Donc, finalement, est-ce que c'est pas une option intéressante?
Mais en même temps, il se fait manipuler parce que tout le monde lui dit quoi dire. Ben, des fois, non, aux Oscars, il donne des Oscars à n'importe qui. Mais, mettons, dans sa course à la gouvernance, il n'y a aucune idée. Il veut seulement être aimé, être élu. Il veut seulement qu'on vote pour lui. Alors, donc, il y a du monde qui en profite. Parce que derrière, il y a du monde qui lui donne des idées, qui lui font faire des choses, qui se rend compte qui sont complètement outrageuses. On le constate, sa maison est démolie parce que des mauvaises idées qu'il a décidé d'assumer. Donc, on voit cette problématique-là de vouloir de tout accepter sans, pour la seule reconnaissance de le faire.
Oui.
Donc, c'est pas toujours...
C'est aussi intéressant de voir c'est qui sa femme et ses deux anciennes femmes, qui sont quand même des femmes de caractère et qui sont très, très, très loin d'être des chiens. D'avoir cette personnalité-là aimable et tout. Ouais,
Mais le temps file et déjà, avant de finir, j'aimerais ça qu'on parle de ton zine parce qu'on en a parlé un petit peu au début, mais on en parlait un petit peu avant de terminer. Donc c'est un zine où tu te mets en scène en train de parler aux autres, aux personnages de BoJack Horseman. Et mais en fait, ce que je disais, c'est que tu réussis vraiment dans ton interaction avec eux à capter vraiment l'essence de tous les personnages dans la conversation et aussi dans l'interaction, parce que des fois ils répondent des choses, des fois ils répondent moins de choses. Ça révèle toute l'essence de leur personnalité, qui, on le voit depuis le début de l'émission, est assez complexe. Mais il y a aussi tout un travail de fan que je pourrais appeler ça comme ça, parce que tu représentes très bien la façon dont on regarde la série, où on s'identifie un peu à chacun des personnages, où on en prend, on en laisse. On dit « Ah, mais cette vision du monde-là, moi, je décide de me l'approprier. » Celle-là, un peu moins, où on critique les personnages. C'est un peu tout ce qu'on fait depuis une heure, là. Donc, mais j'aimerais ça t'entendre un petit peu plus sur le processus qui t'a amené... outre les likes Facebook, là, mais comme la réflexion, rapide, s'il y en a une.
Ouais. Ben, je pense que c'est ça. C'était le plaisir de faire ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire me projeter dans un univers que j'adore, que je trouve fascinant. Hier, en réalisant mon zine, j'ai réalisé que Zéa, le personnage, en fait, n'a jamais écouté la série BoJack Horseman. On l'apprend quand elle dit à Diane, « Ah, oh, mon Dieu, c'est toi qui a Ghost Ride, BoJack. Genre, j'en reviens pas, ce livre-là est tellement bon. » Donc, en fait, le personnage du zine est un personnage de l'univers de BoJack Horseman qui est allé à Hollywood probablement après avoir lu le livre de BoJack pour essayer de rentrer en contact avec ces gens-là, pour écrire sur eux. Parce que personne ne s'intéresse au fait qu'elle écrive sur elle-même, tu sais. Puis c'est ultra paradoxal parce que dans le fond, ce zine-là, puis le travail qu'on fait en regardant des personnages qu'on aime puis en s'identifiant à eux, c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes aussi. Puis c'était très psychopop finalement aujourd'hui parce que BoJack amène ça, il nous mène à nous questionner sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est plus Zoé ou Zelda? Puis où est-ce que ça nous mène? Puis je pense que mon petit côté Mr. Peanut Butter fait que je me demande, j'ai toujours l'impression que les gens m'aimeront pas, puis je me demande constamment si les gens vont m'aimer ou pas, d'où le titre d'usine, puis la quête au final qui est Zéa qui va aller rencontrer chaque personnage pour voir qui va l'aimer et avec qui elle va avoir une belle relation. Mm-hmm. Le punch, ouais. C'est Todd.
Mais il s'en vient à Montréal. Yes.
Puis il n'y a jamais, jamais d'interaction entre Zéa et Mr. Peanut Butter. Je viens aussi de remarquer ça.
Mais il y a aussi le fait que tu dis que tu es Peanut Butter, mais tu as fait ce zine-là parce que des gens ont aimé le fait que tu fasses ce zine-là. Donc ça revient aussi encore à. On te dit qu'on aimerait que tu fasses quelque chose, donc tu fais comme Mr. Peanut Butter, puis tu le fais.
J'ai une apparence de Diane, mais je suis comme intérieurement Mr. Peanut Butter. En fait, mon animal totem, c'est Lisanna Walt.
Voilà, t'es un petit peu de tous les personnages, mais je voulais dire quelque chose, j'ai complètement oublié.
Mais c'est intéressant parce qu'on a fini, t'as fini en disant que Todd venait à Montréal, mais que ce personne, toi, tu ne fais pas une fanfiction, en fait, t'as pas écouté la série, tu t'en vas à Hollywood, mais qu'il y aurait à Montréal, donc...
Il y a Montréal dans l'univers de
BoJack. Il y a un crossover entre le monde d'usine et...
On espère une saison 7 de 6 de BoJack Horseman avec un épisode où Todd se retrouve par hasard à Montréal à travers tous ces musiciens qui font ce qui les passionne sans gagner une crise de scène.
Avec des mauvais gags de Canadiens de bord en bord.
Puis il y a un moment où il mange la poutine.
Ben oui, ben non, mais il peut pas manger de poutine. Ouais.
Puis il se rend compte qu'à Montréal, tout le monde porte des tucs.
Oh. Tout le monde dit « sorry ».
Mais, est-ce qu'il y a un animal qui représenterait bien le sorry?
Je sais pas.
Hein? Un orignal, c'est facile.
Ouais, un orignal.
Oh, mais ça, c'est l'animal canadien.
C'est peut-être le cousin à BoJack.
L'orignal?
Ouais.
Cousin éloigné, je sais pas. Je pense pas que c'est comme ça que ça.
Bah, c'est des animaux à quatre pattes avec des sabots. Ouais, moi.
Wow, tu vas un peu loin, là.
Je suis pas zoologue.
Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait, les sujets qu'on voulait apporter. En fait, est-ce qu'il te reste des copies de ton zine?
Bien sûr, il m'en reste. Je les vends quelque chose entre 25 sous et 5 $ parce que je trouve qu'en bas de 25 cents, c'est cheap en esti, puis en haut de 5 piastres, c'est exagéré.
Ben,
merci beaucoup à vous. On a vraiment parlé de nous pendant une heure, finalement.
C'était
le fun! C'est correct.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que, finalement, c'est une série qui nous aide à réfléchir sur nous-mêmes, puis un peu à ce qu'on veut dans la vie.
Là, d'ailleurs, si je peux ajouter un petit truc... Dans Les Inazia, à la fin, puis là, vous savez, j'ai écouté BoJack parce que je voulais lire son film, parce que j'aime son travail. Puis à la fin, il y a tout un passage où elle relate le journal de tout ce qui s'est passé. Puis là, elle dit qu'elle aime bien ça, elle aime bien Princess Caroline, mais vu qu'elle porte des cols roulés noirs, c'est un peu gossant d'avoir toujours des poils de couleur sur elle. Puis comme moi, je m'associe à ce personnage-là un peu inconsciemment, ben j'étais un peu triste. Je l'avoue, de savoir que je mettais du poids sur ton linge noir.
Ben d'ailleurs, je porte un col roulé en ce moment, pour ceux qui ne voient pas le live.
Fait qu'à quel point la vie personnelle rentre dans cette série télévisée. Mais c'est à cause de la complexité des personnages.
Oui, évidemment. Là, oui. Parce que c'est ça, au lieu d'avoir juste Zoe et Zelda, maintenant on a comme toute une panoplie de personnages rares, très contradictoires et complexes, auxquels on peut essayer justement de s'identifier. Là. Donc voilà. Merci Alex, merci Zéa, merci Steph.
Yep.
On va aller déprimer un peu chez nous. Là.
Hooray!
Hooray! Hooray! Bon voilà, merci et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pop en Stock. Where there's water, there is fodder, and the spirit pulls you under through the sunlight, and the fire burns a signal crackling wire, and on the red horizon, the stars are singing silent songs to home, and the moon's arising. Slowly turning into stone. Tell me, is this happening? We dance and then we fall apart again. Happiness is wandering. The road that leads us on into the dark. So point your wheels towards my shop. Cut the silence with the signal. Leave your tracks in the dust of angels. New directions.